le rendez-vous des amateurs de sport. Avec Michel Tifo et Dominique Bolduc. Bienvenue dans le vestiaire.
C'est déjà la débandade pour le Canadien. Je commence raide, là, mais... Bienvenue dans le vestiaire jusqu'à 16h30 pour un 60 minutes de sport. Michel qui se joindra à nous dans les prochaines minutes. C'est déjà la débandade chez le Canadien. Au niveau des blessures, est-ce que ça vous inquiète de voir le nombre de blessés déjà dans cette saison si jeune? 3 rencontres. 2 qui sont déjà sur le carreau. En fait, 2 à Montréal. Parce que du côté de Laval, il y en a également. Là. On a Kirby Dack. Ça a été confirmé après la rencontre hier soir que sa saison était terminée. Il devra subir une opération pour réparer des déchirures ligamentaires au niveau du genou. Et il y a également Kaden Gooley qui malheureusement n'a pas fini la rencontre hier. Et on n'a pas eu d'autres détails aujourd'hui sur son état de santé. On dit qu'il va être réévalué. Mais c'est des points d'interrogation qui se pointent actuellement chez le Canadien de Montréal. Au cours des 2 dernières années, pas seulement l'année passée, au cours des 2 dernières années, le Canadien de Montréal a été franchement éclopé par les blessures. Et à peine 3 matchs de jouer cette saison, ça a l'air parti pour la même chose. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème chez le Canadien de Montréal? Pourquoi cette équipe-là se blesse autant? Heureusement, il y a des gars comme Nick Suzuki qui n'ont toujours pas raté de match depuis leur entrée dans la Ligue nationale. Il y en a qui perdurent. Mais l'an dernier, là, nommez-moi-en des joueurs qui, à part Suzuki, là, qui n'ont pas raté de rencontre. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ils ont tous subi des blessures d'une manière ou d'une autre au cours de la dernière année. Il y a à se poser des questions. Écoutez, là, 58 matchs l'année passée pour Dak, 46 pour Caulfield, 67 pour Hoffman, 48 pour Matheson, 58 pour Drouin, Dvorak 64, Evan 54, Goulet 44, Savard, 62. C'est tous des joueurs qui ont raté minimum 20 matchs. Anderson, 69. Harris, 65. Monahan, 25. Tous des joueurs qui ont raté minimum une quinzaine, ben une vingtaine de rencontres. Gallagher, 37. Armia, 43. Un seul joueur l'an dernier a réussi à faire une saison complète, c'est Nick Suzuki. Et là, ben, cette année, ça a l'air parti. Ça a l'air mal parti en tout cas, là. Côté de Dak, c'est terminé. Gooley, on espère avoir de bonnes nouvelles. Mais pour l'instant, c'est silence radio. Puis, je dis Montréal, mais dans le club école, ça va pas mieux. Gabriel Bourque, le capitaine de l'équipe, va rater le match de ce soir contre les Americans de Rochester. On dit qu'il pourrait être absent pour longtemps. Blessure au dos, évaluée par les médecins de l'équipe. Et on pourrait même parler d'une opération. Oh, bon ben. Emil Heinemann, qu'on pensait bien lors du camp d'entraînement qu'il allait peut-être se frayer une place chez le Canadien de Montréal, lui aussi, il est sur la touche pour une longue période. Xavier Simoneau, Philippe Méchard, lui, va revenir dans l'alignement, heureusement, grâce à ça, mais là, Heinemann, Bourque, à Laval, on parle de longue absence. Dax, c'est fini. Et là, c'est gaulé, on n'a pas trop de nouvelles. Michel Dufault, ça t'inquiète-tu, la situation du Canadien de Montréal?
Ce qui m'inquiète, c'est le premier trio. Tu parlais de Suzuki, il manque pas de match, mais début de saison difficile.
Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile pour personne hier.
Hier, on a amené un nouveau trio, premier trio. Ni Binard, ni Suzuki, ni Caulfield.
Non.
De toute façon, l'équipe au complet. À part, je le mentionnais ce matin dans le bulletin de sport, à part Pezzetta qui est 2-2.
Puis Chakaï, mais encore Chakaï, a scoré dans son but.
Il était indiscipliné, Chakaï, là.
Il a écopé de punitions niaiseuses.
Le Canadien prend bien trop de pénalités.
C'est l'équipe la plus punie, là, en ce moment. Là.
Puis c'était la problématique l'an dernier. Ouais. Même problématique cette année, il va falloir corriger ça.
Des punitions niaiseuses. Oh. D'indiscipline. Carrément d'indiscipline. Tu sais, punition de lâcheté, d'accrochage, de brassage.
Pas l'ouvrage à faire, hein?
Il y a de l'ouvrage à faire. Martin Saint-Louis a beaucoup d'ouvrage à faire. Tu sais, c'est bien beau, il a le fun, il parle bien, il passe bien d'un journaliste. Il faut qu'il passe le message. Parce que s'il ne passe pas le message dans cette équipe-là, ça n'avancera pas.
Beaucoup de choses en émission aujourd'hui. Baseball, tantôt, avec
oui,
Michel Bureau.
Oui, c'est vrai.
La boxe, le basketball, ça s'en vient le début de la saison. On est encore dans les joutes hors concours, là, mais le début de la saison s'en vient. Et dans un petit moment, l'entraîneur des élites midget, Arnaud Dubé.
Arrêt de jeu. Retour dans le vestiaire dans quelques minutes.
L'équipe Simard Via Capital, la meilleure équipe du Saguenay-Lac-Saint-Jean, vous propose sa chronique « Conseil de choix pour mon toit » le dimanche durant l'émission « Les plaisirs démodés » à 14h. Ici Mario Vézina. Ce sera un réel privilège de partager avec vous les connaissances et les compétences de l'équipe Simard durant mon émission. Ne cherchez plus, l'équipe Simard Via Capital est disponible à bien vous servir dans vos projets d'acquisition ou de vente de votre maison. L'équipe Simard, 418-550-6561. 418-550-6561. 6561.
Pour vendre ou acheter, y'a pas meilleure façon. L'équipe Simard, votre solution maison.
Paul, on a encore reçu une augmentation pour le déneigement.
Quoi? C'est assez. J'investis dans une souffleuse Toro. La réputation d'excellence. Fini les problèmes d'hiver. Chez Mécanique ADG, Boulevard du Royaume, Jonquière.
Les mercredis à 23h, on vous invite à Carte sur table où vos animateurs Jasmin Bayargeon et Gabriel Bayard discuteront de l'actualité musicale dans une ambiance décontractée pour bien finir la soirée. Soyez là à 23h le mercredi sur les ondes du CKJ 92.5, ma radio d'ici.
Vous êtes dans le vestiaire avec Michel Tifot et Dominique Bolduc.
Ça n'a pas été facile pour les élites lors du dernier week-end. Deux défaites face à des très bonnes formations. Là. Le Séminaire Saint-François qui ont un dossier de 11 victoires et seulement une défaite. Et contre les Estacades de Trois-Rivières, quand même une bonne rivalité avec la formation jonquéroise. On en parle avec l'entraîneur-chef des élites, Arnaud Dubé. Salut Arnaud.
Salut Dom.
Quand on dit des fois un match à oublier, je pense que celui de samedi contre Séminaire Saint-François, là, il est dans le top de la liste.
Ouais, vraiment. Ben, tu sais, notre fin de semaine au complet. En toute honnêteté, là, c'est une fin de semaine qui n'a pas été satisfaisante pour nous. Puis, on s'est assuré là, à l'entraînement de revenir là-dessus. C'est pas tant les résultats que la manière. Puis, je pense que les joueurs sont conscients. Puis, je pense qu'on, comme groupe, il faut progresser. Ça va arriver des contre-performances. Je ne sais pas que ça se répète là.
Quand on regarde le sommaire du match de samedi contre le Séminaire Saint-François, bon, défaite de 3-0. Mais dans les lancers, 39-10 seulement, 10 lancers. C'est quoi, leur défensive était trop grosse? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné là, dans ton plan de match?
Ben, en fait, je dirais qu'ils ont vraiment une excellente équipe. Là. Ça, c'est indéniable. Des fois, il faut rendre crédit à l'adversaire aussi. Mais c'est de notre côté, je pense qu'on en a plus que 10, là, honnêtement. Je pense que ça, c'est erroné un petit peu. Mais okay. Effectivement, il y en a trop peu quand même. Puis, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? On a généré. On s'est pas mal défendu. Oui, il y a 39 lancés, mais quand même pas mal défendu. C'est juste qu'on a généré là, aucune offensive là, dans notre façon de faire. Fait que c'est plus ça qui était problématique. Puis, on a mis l'accent là-dessus dimanche. On a généré un peu plus d'offensive, mais on a donné beaucoup trop de chances de qualité dimanche. Fait que, un va pas sans l'autre. Là, ça prend les deux parties.
Heureusement que ton gardien, Mathias Hernandez, a été fantastique dans le match de samedi. 36 arrêts. Sinon, ça aurait pu être pire que ça.
Oui, comme je t'ai dit, tu sais, on a donné des chances, mais pas si, tu sais, on a donné le lancer de l'extérieur aussi. Tu sais, au niveau de notre défensive, samedi, c'était pas si pire. C'est vraiment, on n'a rien généré. L'offensive, elle était plus... c'est quand t'as pas la rondelle ou quand tu l'as, tu la gardes pas longtemps. C'est sûr que ça revire de bord. Là. Tu sais, c'est vraiment ça qui est... que nous autres, on trouvait qui était majeur samedi. Dimanche, ça a été complètement l'inverse. T'sais, on a été meilleur avec la rondelle, mais sans la rondelle, on n'était vraiment pas là. Fait que, c'est de trouver l'équilibre là-dedans. Puis, on a parlé de tout ça là, déjà depuis 3 jours.
Comment on ajuste ça maintenant dans les entraînements? Comment on prépare en vue du prochain week-end?
Ouais, ben tu sais, beaucoup de choses qui se sont dites, beaucoup de choses qui sont faites. Il y a des choses qu'on va garder à nous autres aussi. Mais c'est pas toujours une question de système, c'est pas toujours une question de X puis de O, comme on dit. C'est une question d'attitude puis au niveau de notre effort. Puis je pense que c'est des choses qu'on a ajustées là, ensemble comme groupe là, depuis deux jours déjà.
Les prochains matchs seront encore une fois pas faciles. Ben, on dit, il n'y a jamais de match de facile. On va se le dire. Mais la prochaine visite vendredi, les Chevaliers de Lévis, toujours une belle rivalité avec cette équipe-là.
Oui, toujours. Puis, tu sais, la réalité, c'est que notre division là, dans l'Est du Québec est toujours excessivement forte. Fait que, puis on joue plusieurs fois contre eux autres. On joue 20 matchs de nos 40 contre les clubs de notre division. Fait que, à tout coup, là, ça va être un excellent duel contre une équipe de notre division, si on le sait. Puis c'est à nous de faire notre travail puis de jouer avec fierté vendredi.
Et il va falloir profiter des avantages numériques
aussi.
Oui,
surtout.
Oui, mais tu sais, ça c'est un tout. Quand ton effort n'est pas maximal, la concentration est moins là, tu peux pas avoir du succès en avantage numérique, tout simplement. On va résumer ça simple de même.
J'ai remarqué, je regarde un peu le classement général au niveau des formations. Il y a quelques années, on avait instauré la formule de 3 points pour une victoire. Et là, je vois, 3 victoires, 8 défaites pour les élites, 7 points. Est-ce qu'on est revenu à la marque des 2 points pour une victoire?
Oui, exactement. Okay. On est revenu à la marque des 2 points, puis 1 point pour une défaite en prolongation ou en fusillade.
OK.
Fait que c'est revenu standard, là, au même titre que Junior Major et Ligue nationale.
OK. Et je pense qu'on a dévoilé également le format des séries en vue à la fin de la saison.
Oui.
Y a-t-il des changements?
Oui, il y a des changements par rapport à l'an dernier. En fait, la première ronde, là, qui sera un peu là, une forme de ben, tu sais, c'est 4 contre 5. C'est 4, position 4 contre position 5 de la division, qui est un 2-3. Ensuite, ça va se retrouver dans un autre 2-3 là, pour se faire, dans le fond, 1 contre 4, 2 contre 3 à l'intérieur de la division. Puis l'équipe qui va sortir de sa division, en fait, là, qui était, mettons, le champion de division, va aller jouer un 3-5 contre un autre champion de division. Puis là, vous allez me dire, ouais, mais il y a 3 divisions, exactement. C'est que là, la quatrième équipe qui va entrer dans les demi-finales de Ligue sera une équipe qui va passer par tout le parcours là, des séries de repêchage là, qui a commencé l'an dernier, là, des équipes qui ont perdu à tout moment, qui reviennent. Puis qui s'affrontent pour remonter le tout ça, puis revenir à la fin. Puis l'an dernier, ça s'était terminé par un tournoi de 5 jours, là, de 4 ou 5 jours, là, avec les 4 dernières équipes. Là, cette année, les 4 dernières équipes, ça ne sera pas un tournoi, ça va être 2 séries 3-5.
OK. C'est un peu mélangeant vu de même, ouais, mais au moins, les joueurs voient de la glace.
J'aime mieux un tournoi 3-5. Oh.
Ouais, je comprends que c'est un peu mélangeant. Ça prend un peu d'écrit pour mieux comprendre. J'ai essayé de vous expliquer ça rapidement et le plus simple que je pouvais.
Il n'y a pas de problème. Et Arnaud, donc on souhaite un meilleur week-end contre Lévis. Et encore une fois, contre le Blizzard du Séminaire Saint-François, je pense que les joueurs ont une dette là, envers toi.
Ben non, mais c'est pas la dette n'est pas envers moi. Il n'y a toi pas, Dominique. La dette est envers le Blizzard. Puis les joueurs, ils s'approprient tout ça aussi. Puis ça leur appartient. Puis c'est, nous, on est là. On les accompagne. Ça nous appartient aussi. Mais pas vrai que c'est pas une question d'un entraîneur contre des joueurs.
Ah, t'as raison là-dessus. On espère qu'on rebondisse bien contre le séminaire.
Exactement. Merci beaucoup.
Merci, Arnaud.
4h-15. On va jaser de boxe tantôt. Savais-tu, Dominique, que Babe Ruth a joué un match de baseball à Montréal?
Ah oui?
Au stade des Lormiers. Parce que avant le parc Jarry, le stade où les Royaux de Montréal disputaient les joutes dans la Ligue internationale, ça s'appelait le stade des Lormiers. Pas loin de chez Molson, là.
OK.
Et Babe Ruth est en visite à Montréal et on lui avait demandé de jouer un match de baseball au stade des Lormiers. Ça se passe en 1928. Et la carrière de Babe Ruth, on entend parler, on sait qu'il a frappé 714 circuits, là, qui était un bon cogneur, qui était capable de lancer. Mais sa carrière, il a joué quand même assez longtemps, là, de 1914 à 1935. Je suis certain que les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, il n'y a pas personne qui l'a vu jouer.
Il n'y avait pas vraiment de télévision dans ce temps-là. Non.
Et... on le voit toujours dans le costume des Yankees de New York, mais il a joué pour les Red Sox de Boston.
Pour Boston. Ben
de 1914 à 1919.
Et il a terminé avec les Braves de Boston.
Quelques matchs avec les Braves d'Atlanta. C'est un gars de 6 pieds 2. T'sais, on pense pas qu'il est si grand que ça. Là.
6 pieds 2.
Mais c'est un gars de 6 pieds 2, 215 livres, 714 circuits. Il y a une saison de 60, une saison de 59 et deux saisons de 54 parties. Il est décédé jeune, Babe Ruth.
Oui, oui, effectivement. 53 ans.
Un cancer. Ben, et puis il y avait des problèmes de il y a d'abord il fumait le cigare comme
ben, puis au niveau de la boisson, là, c'est un gars qui aimait fêter. Là. Il aimait la vie, disons.
Ouais, disons. Il y avait, donc, il n'y a pas juste Mickey Mantle à New York.
Mais ce qui était impressionnant, bon, c'est sa production. Dans sa saison, entre autres, de 59 circuits en 1921, en 152 matchs. 152 matchs. 204 coups sûrs, ça va, ouais, hein, on le voit. 177 points marqués. Il marquait plus d'un point par match. Ouais. Et en plus de ça, 168 points produits. Donc, il en produisait
ben, il frappait,
également.
Il frappait des circuits, il frappait des coups sûrs aussi.
Il frappait
là.
Des coups sûrs. On parle de 204 coups sûrs, 59 circuits, 44 doubles, 16 triples.
Ah oui!
Il était capable de la frapper et de courir. Il a quand même début volé un petit peu là, dans le meilleur de sa carrière. Mais c'était tout un cogneur. Puis dans,
je tu te rappelles de son surnom? Ben, tu te rappelles.
Bambino.
Bambino.
Et ses moyennes au bâton également qui étaient assez impressionnantes, là, qui frôlaient peut-être de quelques fois.
Et il est le seul joueur de baseball professionnel à avoir eu l'audace de montrer au lanceur la clôture qu'il allait faire.
Oui.
Ça prenait de l'audace faire ça. Il fallait être sûr de lui, là. Et on le voit sur des photos, il montre la clôture de Charleroi au lanceur. Puis après ça, c'était Bedoun, il l'a envoyé de l'autre côté de la clôture.
Savais-tu combien il gagnait au meilleur de sa carrière?
Ah, c'était quelques mille dollars. C'était pas il n'y avait pas de millions dans ce temps-là, oublie
80 000 $
Ouais. Dans le temps, c'était de l'argent, là. Oui. Aujourd'hui, un gars comme Babe Ruth, j'ai hâte de voir le contrat de Shohei Ohtani, là.
Ouais, c'est...
Tu sais, Babe Ruth, ça aurait gagné un peu comme ça, ça va-tu être 20, 30?
C'est minimum 30.
Minimum, je pense que oui.
Si on s'assure qu'il va être en mesure de lancer à nouveau dans sa carrière,
la question
là,
est là.
À 40, 50 millions.
Comment veux-tu offrir un contrat de même, on ne sait pas.
Ben, en ce moment, c'est ça, là.
On ne sait pas s'il va lancer.
Ben oui. S'il ne lance pas, c'est un très bon frappeur. Mais tu peux pas donner 50 millions
à Ohtani. Non, non, s'il est capable de frapper, lancer, là, il vaut 50.
Oui.
Mais s'il n'est pas capable de lancer,
Pierre, 50 millions.
C'est du baseball. Dans un instant, la boxe, ça peut être payant aussi. Un champion du monde.
Oui.
C'est pas comme dans le temps de Joe Louis, là. Tu sais, là, on est dans les années 25-30 avec Babe Ruth, Joe Louis. Mais dans les années 2023, on voit les contrats qui signent au football, au basketball, au baseball. Puis même au soccer, on discute de boxe dans un instant avec Michel Desgagnés.
Dans le vestiaire, l'équipe étoile 100% régionale vous revient après cette pause publicitaire au 92.5. Ma radio d'ici.
Prenez le volant du Kia Sportage 2024 chez Kia Roldauto. Disponible en version essence, hybride et hybride rechargeable. Achetez votre Kia Sportage dès aujourd'hui chez Kia Roldauto. Kia, du mouvement via l'inspiration.
Participez, vous aussi, à nos émissions. Je suis Éric Lavoie, recherchiste du 92.5. Je vous invite à nous contacter et participer en ondes aux émissions Réveillez-vous et Le Retour. Vous avez une information à partager ou êtes témoin d'un événement, n'hésitez pas à me contacter en privé au 418-818-4991. Ma radio d'ici, toujours près de vous. 818-4991.
Les centres d'autonomie vous offrent le plus grand choix de quadriporteurs, du plus petit au plus performant, en achat ou location. En plus des vélos électriques Vélec et les VTT électriques à découvrir au centre d'autonomie. 690 des actionnaires Chicoutimi, 399 avenue de la Friche, Dolbeau-Mistassini, 542-1255.
On a des joueurs démarqués dans les étoiles de la semaine. Simon Claude Blackburn, quel week-end il a connu. Bien, lui, il n'a pas joué junior majeur.
Il a joué quelques matchs avec les Saguenayens. Il est passé par les petits calibres, entre autres le junior 2A et le collégial.
Il
jouait avec les Janois. Et au niveau senior régional, ça allait quand même très bien. Mais cette année, en fin de semaine, 5 points en 2 matchs. Un tour de chapeau vendredi contre Saint-Georges. Il a 6 points en 3 rencontres depuis le début de la saison. Il est 4e marqueur de la Ligue. Première étoile de la semaine. Et le capitaine Alexandre Picard, qui a réussi 5 points en fin de semaine également, troisième étoile.
Et ce week-end, c'est Laval à surveiller.
Aller-retour Laval.
À la boxe, notre chroniqueur Michel Desgagnés est avec nous. Bonjour Michel.
Hey, bonjour les gars.
D'abord, petite histoire de boxe sur les performances canadiennes aux Jeux olympiques.
Eh oui, on a eu quand même des performances canadiennes là, aux Jeux olympiques depuis 1920 surtout, là, que c'est commencé. Mais moi, je voulais surtout revenir un petit peu avec nos boxeurs québécois. On a eu, savez-vous que Lennox Lewis, qui a été champion du monde professionnel de boxe, était un des boxeurs ici au Québec, puis a gagné, quand il a gagné les Olympiques, il faisait partie de l'équipe canadienne. Fait que c'était, ça, pour moi, c'est une grande révélation. Ensuite, bon, on a eu quand même le dernier, qui est Simon King, qui a participé aux Olympiques, là, c'est pas Rio 2016, quelque chose de même. Puis, on a des Sean O'Sullivan, qui a été champion du monde, qui était un gars d'Ontario. Mais tout ça pour dire que les boxeurs, là, Arthur Prom, Prodhomme, Raymond Smile, Douglas Lewis, c'est tous des Canadiens. Dans les Québécois, on n'a pas eu de médaille vraiment, là, à part Lennox Lewis là, qui avait gagné la médaille d'or. Ça fait que c'est un petit peu décevant de ce niveau-là. C'est ça que c'est le constat que je faisais. L'autre chose que j'aimais, c'est parce que je voulais en venir que cette année, l'année prochaine, aux Olympiques de Paris 2024, le Canada a fait une sortie en disant que tous les boxeurs professionnels qui avaient déjà été performants sur l'équipe canadienne là, en tournoi international pouvaient s'inscrire aux Olympiques.
Les boxeurs professionnels, là, tu touches une corde sensible. Mmh. Les professionnels aux Jeux olympiques, on a déjà eu des discussions corsées, Dominique et moi, sur l'avenue des professionnels dans les Jeux olympiques.
Ben moi, ça me chicote, ça fait longtemps. De toute façon, je suis complètement en désaccord avec ça. Puis là, ben, le Canada a fait cette sortie-là parce qu'on va avoir plus de médailles possibles aux Olympiques.
Bon, on se rejoint là-dessus sur l'avenue des professionnels dans les Jeux olympiques. Par contre, peu importe la discipline, mais il y a certaines disciplines amateurs que les athlètes touchent des montants quand même importants. Tu sais, quand tu touches un montant, tu deviens professionnel.
Ben, ça, c'est sûr. Souvent, ben, le montant, c'est en dessous de la couverte.
Tu sais, c'est ça. Des fois, on déjoue un petit peu. Les commanditaires, tu sais. Puis des fois, c'est des sommes importantes. Donc là, je me dis, on est loin des Jeux olympiques, là, les premiers Jeux en Grèce, où il n'y a pas personne qui était rémunéré. Là. Ça a changé là, depuis ce temps-là.
Ah, ça a changé beaucoup. Puis d'ailleurs, les premiers, là, je pense que c'est en 1993, je pense, les premiers Jeux. Là, je pense, je pense que c'est une équipe de basketball qui avait commencé ça à un moment donné. Me semble que c'est 93. Mais après ça, la boxe, c'était le dernier. C'est le dernier sport qui a accepté les professionnels aux Olympiques.
Il y a un auditeur qui me dit, Michel, demande à Michel Desgagnés si Lennox Lewis a déjà boxé à Jonquière dans un championnat canadien à la fin des années 80, chez les amateurs. Raconte-nous ça. C'est un vrai connaisseur. Il s'appelle Steve Gauthier. Alors, raconte-nous cette expérience-là, Michel.
Ben, écoute, il faisait partie de l'équipe canadienne. Il était dans les championnats québécois là, qui avaient lieu à Jonquière. Sais-tu les Jeux du Canada?
Les Jeux du Canada, c'était en 83 à Jonquière, à Saguenay. Ben, c'était Jonquière, Chicoutimi, c'était pas fusionné dans le temps.
Lennox Lewis, il a gagné en 1988 à Séoul.
Okay.
Ça veut dire qu'il était amateur jusqu'en 1988.
Ouais. Alors, il aurait boxé à Jonquière, selon notre boxe.
Boxé à Jonquière, c'est officiel qu'il a boxé à Jonquière.
Il faut le faire.
Ouais. Ça a été... Puis dans les, tu sais, quand tu regardes tous ceux qui sont champions olympiques, là, normalement, ils ont des belles carrières professionnelles, la majorité.
Ben, Mohamed Ali, il a boxé aux Olympiques?
Ouais, lui, il est en 1960.
À Rome, c'était à Rome en 60, si je ne me trompe pas.
C'est ça, tu sais, Mohamed Ali, Joe Frazier.
Non, c'était en temps, c'était pas Mohamed Ali, c'était Cassius Clay.
C'est ça, avant qu'il change de...
Avec change de nom puis de religion.
De religion également. Ouais. Fait que, puis là, au niveau de la boxe, c'est le dernier sport qui a accepté les professionnels aux Olympiques. Ça, c'est en Rio 2016. Fait que, c'était le seul sport qui n'avait pas encore... la boxe tenait son bout, il ne voulait pas avoir les professionnels. Mais depuis ce temps-là, on a eu Rio 2016, on a eu d'autres, les Olympiques de 2020. Là, on s'en va en 2024, puis je pense qu'il n'y avait pas grand professionnel. Par contre, cette année, on accepte, j'ai l'impression qu'il va y avoir quelques boxeurs québécois peut-être, dont Kim Clavel qui a levé la main pour se présenter.
Entre des championnats canadiens puis les Jeux olympiques, est-ce que la barre est haute?
Très haut.
À franchir très haut, hein? Oui. Hein?
Très haut.
Dans n'importe quel sport. Alors là, on parle de boxe, bien sûr, là. Mais n'importe quel sport, que ce soit du patinage, que ce soit du... peu importe, là, la barre est haute, hein?
Après ça, il faut qu'ils fassent des Jeux panaméricains, les Jeux du Commonwealth, il faut qu'ils fassent des qualifications olympiques. Je me rappelle, moi, je l'ai fait en 2008 avec Francine Tétou. On avait des qualifications de... On a eu 3 qualifications avant de certifier les championnats du monde de boxe et qualifications à un moment donné en Trinidad, d'autres qualifications là, au Guatemala.
Un gars comme Stéphane Ouellet, il aurait eu la possibilité d'aller aux Jeux olympiques, mais si je ne me trompe pas, il avait choisi les pros. Ça se peut-tu?
Il a choisi les pros.
Il
pouvait aller défendre son titre, lui, après les championnats canadiens. On a toujours des sélections. En conséquence, puis il a décidé de ne pas aller aux sélections.
On a-tu des gars dans la région qui sont allés aux Jeux olympiques en boxe?
Non.
Non, hein? Okay. Alors, celui qui aurait pu y aller, c'est Stéphane Ouellet.
Celui-là qui aurait pu y aller, Stéphane Ouellet, puis le deuxième, c'est Francine Tétou.
Francine Tétou aurait pu aller aux Jeux. Qu'est-ce qui l'a empêché? Il a manqué des qualifications?
Il a manqué les dernières qualifications. Et mon Dieu. Il est à un combat des qualifications.
C'est pas évident. Ça veut dire, t'as raison, la barre est haute pour se rendre aux Jeux olympiques.
La barre est très haute. Fait que cette année, disons qu'il y a une Kim Clavel qui a levé la main. Mais tous ceux qui vont se présenter, les boxeurs professionnels qui veulent se présenter, les Canadiens qui veulent se présenter aux Olympiques pour qu'ils fassent les qualifications, les champions canadiens cette année, là, en décembre à Montréal.
Et Michel Desgagnés, il nous reste une minute pour... continuer la discussion de ce qu'on a dit tantôt sur Lennox Lewis. On me dit que c'était à la polyvalente de Kenogami qui aurait boxé.
Oui, la polyvalente de Kenogami. Mais je me rappelle plus c'est exactement quel...
C'était-tu les Jeux du Canada ou des championnats canadiens? Là, c'est la question qu'il faut se poser.
Il n'y a pas eu de championnat canadien vraiment à Kenogami. Il y a eu les Jeux du Canada.
Les Jeux du Canada, 183.
Il y a eu aussi, à un moment donné, les... la Coupe Québec qui réunissait toutes les provinces à peu près. Ça fait que ça se pourrait aussi que ça soit dans cette
période-là, oui. Hey Michel, c'est tout le temps qu'on a. Merci beaucoup de nous avoir éclairci la situation sur la boxe et les Jeux olympiques. On aura sûrement l'occasion d'en reparler.
Hey, merci beaucoup.
Merci, au revoir. Dans un petit moment, Serge Loutier, il y a du baseball ce soir, Dominique?
Oui, il y a du baseball, match numéro 3 de la série entre les Astros de Houston et les Rangers du Texas, les Rangers qui mènent 2-0. Puis là, ils sont de retour à la maison.
Et hockey, les Sénateurs d'Ottawa?
Retour de Josh Norris en uniforme ce soir.
C'est une bonne nouvelle.
Oui, absolument. Donc, c'est un gros plus pour les Sénateurs qui vont affronter les Capitals de Washington.
On a-tu des nouvelles de Kaden Goodley? C'est quoi ça, blessure?
Pour l'instant, aucune nouvelle.
Aucune nouvelle.
Aucune nouvelle. Mais la bonne nouvelle du côté des Sénateurs, c'est qu'hier, Tim Stutzel n'avait pas participé à l'entraînement. Il va être en uniforme ce soir.
OK. Dans un moment, Serge Cloutier.
Chez Léo Automobile Honda, on relève le défi de vous offrir des véhicules en inventaire et livrables en 24 heures. Choisissez votre CR-V ou votre HR-V en stock et on vous livre en 24 heures seulement. On a toujours une longueur d'avance chez Léo Automobile Honda.
Je suis tellement tanné, là. Tout augmente. L'épicerie, l'essence, les loyers. Y a-tu quelque chose qui a pas augmenté?
Le prix des cartes de bingo du 92,5. Toujours à 5 $.
Te crée pas.
Mais je te dis.
Te crée pas.
Mais je te dis.
Te crée pas.
Les cartes de bingo du 92,5. Toujours à 5 $. Pour trouver un point de vente près de chez vous, visitez le ckj.org.
Je te dis. Les cartes de bingo à 5 $. Te crée pas.
Mais je te jure.
Ben je te crée. M'en acheter.
Vous êtes intéressé par la politique municipale? Eh bien, le samedi matin, 21 octobre à 8 h, au club de golf de Chicoutimi, participez à l'activité Surprise Partie organisée par l'ORD et Unisson Saguenay sur la pertinence d'une conférence de Bruno Landry, ex-membre de RBO, des témoignages vidéo de maires et conseillers, un panel de politiciens qui soulèvent les vrais enjeux. Activité gratuite animée par Youssef Tadjer, samedi 8 h au club de golf, boulevard Talbot, Chicoutimi.
Coué-coué! Ici Émile Bilodeau, très heureux d'apprendre que Tchouk 107.3 de Mastoyache s'intéresse au quota de 5 % qu'on a mis de l'avant avec la gang de Malio-Ténam. Très hâte d'en discuter avec vous prochainement. Bonne journée!
Découverte musicale autochtone tous les samedis à CKJ 92.5, 18 h et tous les vendredis à Tchouk 107.3, 18 h. C'est un rendez-vous.
Vous êtes dans le vestiaire avec Michel Tifo et Dominique Bolduc.
Yes, tu te rappelles, Dominique? Oh, avant, pendant qu'on va jaser avec Serge Cloutier, les Marquis jouent en fin de semaine au Palais des Sports samedi contre Laval. On n'a pas une paire. Deux paires de billets attribués. Oh. Alors, pendant qu'on va jaser avec Serge, on va prendre le nom de deux gagnants. Puis hier, avec Claude Lucien, on a jasé du décès de Claude Bédard, un journaliste très, très connu, très réputé dans la région de Québec. Puis c'est un qui l'a connu, c'est bien Serge Cloutier. Serge, bonjour.
Salut, messieurs.
C'est même un peu lui qui t'a amené dans le domaine des médias.
Ben oui, parce que Claude, moi, je travaillais pour un petit journal qui s'appelait le journal La Vie de Charlebourg. C'est un hebdomadaire. Puis j'ai commencé, j'écrivais des petits textes dans ça. Quand il y avait des conférences de presse, parce que dans ce temps-là, il faisait des conférences de presse avec les entraîneurs des As de Québec. Je disais, c'est loin ça, oui, c'est loin. Puis moi, j'avais même pas d'auto, j'étais tout jeune, puis j'embarquais avec Paddy Pedneau ou un autre.
Eh mon Dieu, Paddy Pedneau de CKCV!
Exactement.
Oh boy!
Là, j'allais aux conférences de presse chez Molson, un exemple. C'était Vic Stasia, c'était Tug Broda. Puis je rencontrais les journalistes. Puis à un moment donné, le soir à CJRP, Claude Bédard et Roger Doré faisaient des bulletins de fin de soirée. Alors, moi, j'avais été voir Guy Lemieux, qui était le directeur des sports à CJRP. Puis je lui avais dit, j'aimerais ça travailler à la radio, puis ainsi de suite. Mais là, il y avait Claude Bédard et Roger Doré, mais les deux sont partis presque en même temps. Et Claude Bédard avait dit à Guy Lemieux, engage-le donc. Il est tannant, le tabarnouche, il est achalant, puis c'est peut-être que ça va marcher. Fait que Guy Lemieux m'avait engagé, puis Claude Bédard, après ça, on s'est fréquenté pendant des années. Puis Claude Bédard a même été gérant des Indiens de Québec au baseball.
Ah, c'était une ligue semi-professionnelle, ça, les Indiens de Québec, si ma mémoire est bonne.
Ben oui, c'est juste avant les carnavals de Québec.
Avant le carnaval, c'est ça.
Le Valentine, puis Coral Marty.
Dawson, Carter. Et maintenant, c'est Carter pour jouer là aussi.
Oui, Gary Carter aussi. Alors ça, c'est... Puis là, ça remonte à loin. Mais là, Claude Bédard avait été gérant de ce club de baseball-là. Par la suite, journaliste et là, directeur des sports. Puis on a toujours gardé une bonne relation. Sauf que Claude, moi, je ne pensais pas. D'abord, il n'était pas malade. Il avait 86 ans, puis il jouait au golf. Il a joué 75 parties de golf cet été. Hein? Donc, personne ne s'attendait à ce que Claude Bédard nous quitte samedi passé. Il est mort subitement. Oh. C'est une belle mort, excusez l'expression, pas souffert, puis ainsi de suite. Sauf que ça a surpris tout le monde. Et là, Claude Bédard, pas besoin de vous dire que c'était un des bons journalistes à Québec et dans la province. Il a fait les Nordiques longtemps, directeur des sports au Journal de Québec. Et moi, j'ai revu une photo cette semaine. Michel, tu l'as probablement vu, peut-être Dominique. Claude Bédard avec Claude Cadorette et Albert Ladouceur. Les trois ensemble dans le journal. C'est ces trois gars qui ont fait, ils ont couvert les Nordiques pendant des années. Et c'est un peu grâce à Claude Bédard et Claude La Rochelle dans le temps du soleil que les Nordiques sont venus au monde en 1972 dans l'AMH. Ces gars-là ont tellement travaillé fort pour avoir une équipe à Québec.
Un qu'on oublie là, dans les débuts des Nordiques de Québec, c'est Marius Fortier.
Absolument. Mais Marius Fortier, lui, a travaillé beaucoup, beaucoup, beaucoup dans l'arrivée des Nordiques en 1972, comme je le mentionnais avec M. Bédard et Claude La Rochelle. Mais Marius était toujours impliqué, mais pas monétairement, parce que c'est pas un gars qui avait les moyens d'investir dans un club de hockey.
Mais il avait le nez fou, il avait le nez fourré partout.
Beaucoup, beaucoup, beaucoup de contacts. Et Marius a été un des pionniers pour l'arrivée des Nordiques aussi.
Bon, on va commencer à jaser des Canadiens. C'était pas mauvais ce qu'on avait vu dans les parties contre Chicago puis les Maple Leafs de Toronto. Mais hier, contre Minnesota, aïe aïe, ouf.
Hier, il y avait l'air d'un club comme l'année passée où ils ont fini dernier. C'était épouvantable.
Non, bon, soir, ils sont indisciplinés, ils ont toujours sur la punition.
Ben oui, c'est quoi cette histoire-là? C'est toujours de la... On dirait qu'ils sont en retard. Ils sont toujours en retard.
Hier, il est en retard. Puis tu sais, imagine, donner deux buts en désavantage numérique. Ça, ça lui a pété le dos en partant.
Ah ben là, il n'était plus capable de revenir. Non, on dirait que ça ne marche pas. Garde Suzuki, il y a trois parties de jeu. On ne le critiquera pas trop. Sauf qu'il n'y a pas un bon début de saison. Il se cherche. Tu sais, je regardais les autres autour, là, puis ils ont de la misère. Puis là, ils ont perdu Dak pour la balance de l'année.
Puis là, je reviens à Game Diaz. C'était, écoutez, ajoute, là. Première période, Minnesota, ils ont trois poteaux puis une barre horizontale. Plus, si tous ces buts-là rentrent, ils en mangent une tabarouette hier, là.
Ah, ça, honnêtement, il y avait de l'air fou. Puis la déclaration de Martin Saint-Louis après la partie, inacceptable. Alors, il va se pas. Tu peux pas mettre des gars sur le banc après deux, trois parties. Tortorella l'a fait à Philadelphie déjà. Il y a un gars qui s'appelle Morgan Frost, qui est un bon jeune, il a 22 ans. Puis hier soir, je suis allé voir les alignements des équipes, parce que, je voulais vous le dire, mais Frost, je l'ai pris dans un de mes pots. Fait qu'hier soir, je le cherchais. Je suis coudant. Il va voir l'alignement, il n'y a pas de Frost. Alors, ça veut dire que Frost, lui, à Philadelphie, il a pas bien débuté l'année, probablement. Tortorella, lui, niaise pas avec ça, paf, dans les estrades. Mais à Montréal, on n'est pas prêt à faire ça. Tu sais, le monde hier, j'écoutais la RDS après, là, l'antichambre, puis à un moment donné, les gars envoyaient déjà Slavkovski dans les estrades. Attendre un peu?
En parlant des estrades, puis de la foule, puis du public, là, on va te demander de trancher sur un point, sur une discussion qu'on a eue depuis le début de la semaine. Max Bradet puis Claude Lucier, les autres, ils sont d'accord que la foule eut Connor Bedard. Dominique puis moi, nous autres, on n'est pas d'accord avec ça. C'est quoi, toi, ta façon de penser?
Ben, je ne suis pas d'accord non plus. Voyons donc.
Max puis Claude Lucier sont d'accord. Ils ont dit, le monde, ils ont payé leur billet. S'ils veulent huer, ils ont beau huer. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Là.
Moi non plus. Mais regarde, y a-tu été hué à Pittsburgh?
Non.
À Toronto?
Non plus.
Comment ça se fait qu'à Montréal, nous autres, là, les...
Parce grands, qu'à Montréal, c'est la mecque du hockey?
Oui, mais tu sais, Connor Bédard, là, ça veut dire qu'il n'a rien fait à Montréal. Il n'a pas refusé un contrat. Il n'a rien fait. On dirait qu'on cherche des coupables ou encore crier chou. Tu sais, c'est bizarre, c'est spécial. C'est inacceptable. Voyons donc, c'est un jeune qui a 18 ans qui commence en Ligue nationale. Pourquoi lui crier chou? Tu sais, je ne sais pas si Claude Lucier et Max ne sont pas d'accord. Ils ont le droit, là. Ils ont le droit à leur opinion. Mais ils ont payé le billet.
Les spectateurs à Montréal ne savent pas sur quel pied danser ici au Saguenay, les spectateurs de hockey savent où aller. Il y avait du monde au Sags en fin de semaine, puis il y avait du monde au Marquis.
Aïe, on a-tu une vraie population de sport?
Incroyable.
Il y avait au-dessus de 5 000 pour les deux rencontres.
On va demander une franchise dans la Ligue nationale. Pas pire que l'Arizona.
Michel, souviens-toi, à un moment donné, moi, j'ai été une couple d'années après des Saguenayens, j'ai fait la radiodiffusion des Marquis. Puis je me souviendrai toujours, puis Dominique va s'en souvenir aussi, 2800 qu'il y avait eu contre, c'était contre Bobby Barry puis Thetford Mines, de mémoire, là.
Ouais.
On était en finale, c'était Guillaume Lavallée qui était le gardien de but, puis il y avait eu, en même temps que les Saguenayens, tout le monde disait, les Marquis vont se casser la gueule. Bien, contrairement à ce que tout le monde avait pensé, il y avait eu autant de monde qu'il y en a eu vendredi passé. Ça veut dire que les Marquis ont tout un public, les Saguenayens également, puis même les Marquis ont eu plus de monde que les Saguenayens. Hey, c'est significatif, les gars, ceux-là. Là.
Oui.
Ça veut dire que le monde aime leur équipe, ils vont les encourager toute l'année.
Puis en plus, on a eu du monde aux voyageurs tout l'été. On a une belle région sportive. Les gens aiment, apprécient les spectacles que l'on offre au Centre Vézina, au Palais des Sports, au Stade Richard Desmalles. Et c'est encourageant pour les organisations aussi, là.
Bien, ils ne travaillent pas dans le vide. Tu sais, il veut dire, ils font des bonnes promotions. Regarde, les voyageurs ont fait des très bonnes promotions tout l'été. Les Marquis en font des bonnes, sont bien appuyés. Tu sais, c'est pas Sylvain Saint-Pierre, mais celui qui est rendu avec les voyageurs, là, puis qui est rendu avec les élites.
Ah, ben c'est Sylvain, Sylvain Saint-Pierre.
Sylvain Saint-Pierre. Oui, c'est Sylvain. Le président, il est président des deux équipes.
Le cousin Justin.
Oui, c'est ça.
Ben, c'est ça. Puis Sylvain, lui, c'est un bon organisateur. Il n'est pas d'un Marquis, mais les Marquis ont une grosse organisation. C'est bien structuré, bonne communication. Alors, quand tu vois 2800 au Marquis là, un vendredi soir, là, c'est quelque chose. Je ne dis pas qu'il va avoir ça samedi, là, parce que le samedi soir, ça a toujours été un peu plus difficile.
Ah non, le soir de hockey au Saguenay, c'est le vendredi.
Oui.
Puis le dimanche après-midi, c'est pas évident. Là, parce que même à l'époque, moi, j'étais dans le senior, le dimanche après-midi, c'était pas vendeur.
Non, non, c'est le c'était vendredi pas vendeur. Soir. Mais évidemment, toutes les équipes veulent jouer le vendredi soir. Fait que ouais, t'es pas toujours capable.
On a juste un vendredi dans la semaine. Tant qu'à ça, monsieur, madame, tout le monde qui travaille, on voudrait tous avoir des vendredis soirs tout le temps.
Oui, puis regarde, demain soir, là, les Sags vont jouer contre Rimouski. C'est un jeudi. Si on 2000 et plus, ça va être beau. Tu sais, parce que là, c'est pas vendredi. On dirait que le vendredi, nous autres, c'est notre soir.
Exactement.
Partout, là, tu sais, les organisations Marquis Saguenayens, c'est le vendredi soir.
Puis imagine avec ce qu'on est en train de préparer comme équipe avec les Saguenayens de Chicoutimi, parce qu'on le sait, là, dans l'année prochaine, puis dans deux ans, on va avoir un club pacté comme... On a vécu ça à la pandémie, mais on n'a pas pu se rendre jusqu'au bout parce qu'on a arrêté de jouer. Mais là, j'ose croire que l'année prochaine, puis dans deux ans, on ne sera pas arrêté par le COVID, qu'on va pouvoir remplir le centre Georges Vézina avec une grosse formation. Puis il marquait, ben, à date, et il nous donne du bon hockey. Il y a une belle équipe aussi. Regarde,
deux très bonnes organisations qui donnent un bon spectacle. Les gens savent que les Sags, cette année, ce n'est pas une puissance, c'est une reconstruction. Puis ils ont des bons jeunes, Wang et compagnie, là. Les quatre premiers choix de cette année, là, ils ont 16 ans, puis ils jouent. Yannick Jean les fait jouer, leur fait confiance. Alors là, déjà là, tu vois que ces gars-là vont avoir 17 l'année prochaine, et Massé, Derubisseau, ces gars-là vont avoir 18 ans. C'est l'autre année d'après. L'année prochaine, ça va grimper, ça va monter dans 4, 5, 6 premiers probablement. Mais dans deux ans, quelle équipe de hockey on peut rêver, là? Mais est-ce qu'on va y aller à Coupe Memorial? Ça va être au Québec, dans deux ans, Rimouski ou Shawinigan. On verra, mais l'avenir est prometteur.
Serge, merci beaucoup.
Salut, les gars.
Salut. Sans question de basketball dans les prochaines minutes. Tennis, nous, ici à Saguenay, on vit une grosse semaine de tennis. Au niveau féminin, ça fait quoi? C'est la 16e édition, Dominique?
Oui, je pense qu'on est rendu dans ce coin-là.
Du Challenger Banque Nationale. Pendant ce temps-là, sur la scène internationale, il y a Félix Auger-Aliassime qui a gagné deux fois du côté de Tokyo. Et Leilani Fernandez a également remporté sa première partie. Là, il va jouer contre la 233e mondiale. Alors, ça va bien, là, parce que ça a été difficile pour Félix Auger-Aliassime.
Ça a été une saison 2023 pas évidente pour Félix Auger-Aliassime et même pour Leilani Fernandez, qui avait terminé l'an dernier en raison de blessures. Ça fait compliqué. Et 2023 n'a pas été facile. Mais de voir que ça se termine bien, bon, on peut avoir espoir pour 2024.
Et ce soir, ben, on a du baseball. On a un match numéro 3 qui se dispute. Parce que là, hier, les Phillies ont défait les Diamondbacks. Ça a été facile pour Philadelphie. 10-0. Mm. Et l'autre série reprend ce soir.
Oui, oui.
Entre Texas
et
les Astros de Houston. Les Astros qui ont perdu les deux premiers jeux de chez eux.
Et ça, c'est surprenant.
Ça, c'est très, très surprenant.
Les Rangers semblent inarrêtables.
Et il y a du hockey également pour les Sénateurs d'Ottawa ce soir. Dans un instant, le basketball avec Phil Urtubiz.
Dans le vestiaire, l'équipe étoile 100% régionale. Vous revient après cette pause publicitaire au 92.5. Ma radio.
Il y a 6 mois, je suis monté dans mon échelle pour couper une branche dans mon arbre. J'ai reçu une décharge électrique. Je suis tombé tête première. Aujourd'hui, ma femme doit m'aider à me déplacer, car je suis paralysé. Je suis incapable de parler sans cette machine. J'aimerais tellement revenir en arrière. Restez toujours à plus de 3 mètres des fils électriques.
Un message d'Hydro-Québec.
C'est l'arrivée des modèles 2024 en concession chez Jean Dumas Saguenay Mitsubishi Jonquière. Venez réserver le vôtre dès maintenant et profitez du Outlander, nommé meilleur véhicule utilitaire intermédiaire au Canada en 2023. Programme de rabais fidélité avantageux sur tous nos modèles, avec la meilleure garantie de l'industrie et des taux d'intérêt aussi bas que 2,99% sur certains modèles, c'est le meilleur moment pour changer de voiture. Programme d'entretien prépayé sans frais disponible sur la plupart de nos modèles en location. Passez-nous voir chez Jean Dumas Saguenay Mitsubishi, boulevard du Royaume Jonquière. Jean Dumas Mitsubishi, l'ultime choix. Jean Dumas
Multico. Dansons comme dans le temps, c'est l'histoire d'un disquaire et d'une animatrice.
Chalo.
Et Annick, qui ont uni leurs talents pour vous accompagner pendant la pandémie dans le bonheur et la bonne humeur. Une histoire qui se poursuit depuis 3 belles années. Vous faire bouger, danser, rigoler au son de différentes musiques de danse, c'est un plaisir renouvelé plein de nostalgie que nous partageons tous ensemble. Le plus grand défi pour Jello, ne jamais mettre exactement la même chanson pendant toute une année.
Un travail de moine.
C'est pour ça que notre histoire d'amour est platonique, mais je ne désespère pas. Nous comptons sur vous pour répondre à notre question du jour sur la page Facebook de Dansons comme dans le temps, une émission diffusée du lundi au vendredi de 14h à 15h30 sur les ondes du 92.5. C'est
bon pour le moral. C'est bon. Bonjour, je peux prendre votre commande? Allô?
Oui. Ah ouais, OK. C'est quoi ta question?
Laisse-moi deviner. Un combo défoncé au volant, super joli.
Non, juste un hamburger avec des frites.
Tu penses que tu conduis mieux quand t'es défoncé? Pense-y deux fois. Fumer du pot affecte ton délai de réaction et ta concentration. Un message de Mad Canada.
On parle basketball avec Phil Urtubiz.
Bon, ben la saison de baseball achève. L'hockey, ça vient de commencer. Puis le basket, ça s'en vient. On est encore dans les matchs hors concours. Les Raptors qui ont joué hier, Dominique, contre les Bulls de Chicago. On va en discuter avec Phil Urtubiz. Bonjour, Phil.
Bonjour. Ça commence semaine prochaine.
Semaine prochaine, hein? Exact. Et hier, Pascal Siakam et Scottie Barnes ont uni leurs efforts pour donner cette victoire en match pré-saison aux Raptors.
Oui, ils sont toujours invaincus. Puis ce que j'aime, c'est que, tu sais, c'est une équipe qui a toujours une profondeur. Hein, les Raptors, on le voit bien en pré-saison. Les joueurs, ça participe beaucoup. Peu importe où ce que le coach envoie des joueurs un peu plus de profondeur, ça impacte pas trop. Ce qu'on se demande tout le temps au niveau des Raptors, c'est, tu sais, pour gagner le championnat ou pour être dans le top 4, il manque une grosse vedette. Ça, on le sait. Mais certainement, il doit faire les séries cette année, la saison.
Là, c'est une 3e victoire en match pré-saison pour les Raptors. Est-ce qu'ils vont être capables de tenir ce rythme-là quand ça va compter?
Ben, je pense que oui. Comme je te disais, là, ils ont une équipe pour jouer là, aisément en haut de 500. C'est clairement dans les 8 meilleures équipes de l'Est. Maintenant, ben, comme je te dis, là, il reste à savoir durant la saison comment le Masai, qui est le general manager, va voir son équipe sur le long terme. Hein, parce que on sait qu'il y a Oji Unanubi. Bon, est-ce qu'il va re-signer avec les Raptors? Est-ce qu'on l'échange? La valeur du marché est excellente. Il doit certainement regarder les deux options. Il doit voir s'il y a une fenêtre peut-être pour un championnat cette année ou bien faire. Est-ce que c'est l'année prochaine? Mais moi, à mon avis, il aurait dû bouger déjà l'année passée. Je pense que cette année, ils devraient bouger. Puis garder le rythme, ils vont rester constants. Là. Puis la recrue, Grady Dix, va être exceptionnelle. Je vous le dis, les gars, ça va être un solide joueur. Il lance vraiment bien le ballon et très, très, très brillant sur le terrain.
Peu importe les sports, on est fiers de voir nos Québécois. On en a un qui joue pour les Twins du Minnesota au baseball, au football en fin de semaine. On a eu le duel Bergeron et Saint-Just. Et au basketball, ben on va suivre encore cette année les Bénédicte Mathurin et Lugendorz. C'est deux bons Québécois qui évoluent dans la plus grande ligue de basketball au monde.
Vraiment. Puis, là, je sais pas Chris Boucher non plus. Avec
Chris Boucher, exactement, oui.
Il faut aussi Kim Birch, aussi, qui est, je crois, avec Orlando. Il a bougé beaucoup là, dernièrement. Là. Non, c'est super le fun de voir les Québécois. Puis c'est surtout des joueurs d'impact. Hein. Bénédicte Mathurin, à mon avis, cette année, avec les mouvements Indiana, est un candidat à faire le match des étoiles, être dans les meilleurs meneurs de jeu de la Ligue. Maintenant, ben, Lugensdort joue avec son confrère Chai Gilgeous-Alexander, qui est un gars de Toronto, quand même, c'est pas un Québécois, mais un Canadien. Vont probablement jouer ensemble avec l'équipe Canada cet été, qu'ils ont gagné la médaille de bronze contre les États-Unis. Donc, Lugensdort et Chai, se développent une chimie, un peu comme un one-two punch là, ensemble, là. Donc, je pense que Thunder, là, Oklahoma City Thunder avec Chai et Lugensdort vont être très, très, très excitants à suivre comme équipe cette année.
On regarde les performances de nos Québécois, mais il faut aussi regarder la tenue des grandes étoiles de cette Ligue NBA. Hier, dans un match hors concours, Victor Wembanyama a encore connu des succès. Lui, c'est l'un des grands du circuit, là.
Écoute, au hockey, on parle de Connor Bedard. Ben, dites-vous que Victor Wembanyama a le même impact en ce moment avec la NBA que Connor en a avec avec le hockey. Je sais pas si vous avez tout le monde avait déjà vu là, Space Jam, là, quand Michael Jordan il se fait accrocher là, par tous les bonhommes de dessins animés, puis que son bras s'étire.
Oui, oui.
C'est un dunk, là. Ben, Wembanyama, là, il a de l'air de Jordan avec le bras qui s'étire. Là. Il a réussi un dunk par-dessus un joueur. Le joueur s'est juste retourné vers le banc, avait l'air juste découragé à quel point c'était impossible de réussir à garder, dans le fond, à défendre contre Victor Wembanyama. Il fait 7 pieds 5. Il a les bras les plus longs que j'ai jamais eu dans l'NBA. Fait que lui, il fait juste un peu sauter dans les airs. Il a bien beau être à 10 pieds du panier, il réussit à dunker pareil. Là. Donc, wow. Assez exceptionnel.
Quels sont les autres grands noms, les grosses vedettes qu'on devra surveiller dans la prochaine saison de la NBA?
À Boston, Boston va être assez incroyable là, cette année. Là. Vraiment, là, ils ont toute une équipe. Là. Porzingis, là, qui sera même pas un premier ou deuxième ou même troisième joueur avec cette équipe-là, sera basé dans un rôle de soutien. S'il peut rester en santé, il peut faire la différence. Là. Pour vrai, Boston va être difficile à arrêter. Denver, la même chose. Kyler Murray, qui est un Canadien, super, super le fun à voir. C'est les champions à titre. On y va après ça. Ben, c'est certain que Victor, tout le monde, un peu comme on suit Connor Bedard, on va suivre toute l'année Victor Wembanyama, comment ça va se passer. On a hâte de voir l'effet Kyrie Irving. Est-ce que ça va faire finalement avec Dallas Maverick? Luka Doncic est rendu là. Donc, on a hâte de voir comment ça va se passer. Phoenix, donc une équipe aussi à surveiller avec Kevin Durant, supposément en santé. Devin Booker aussi. Vraiment, là, c'est une ligue en santé, Michel, là, la NBA. Là. Il n'y a plus d'équipe vraiment de bas-fond. Tu sais, même Timberwolves qui ont été longtemps dans le bas-fond. Anthony Edwards s'aligne pour avoir une saison probablement incroyable. Je pense que chaque match va être compétitif.
Dans les dernières années, au hockey, on a remarqué que les joueurs sont de plus en plus grands. Au basketball, est-ce que les physiques sont supérieurs aux dernières années? Est-ce que les joueurs sont plus gros? Et surtout, est-ce que les joueurs sont plus grands qu'avant?
Oui, plus grand, puis à des positions qu'avant, on ne voyait pas. Tu sais, voir un joueur comme Victor, là, qui est à 7 pieds 4, 7 pieds 5, aussi agile à lancer le ballon de loin, puis aussi agile à dribbler le ballon. Normalement, ces joueurs-là, excuse-moi l'expression, là, on les parquait à côté du panier. Tu sais, voici ton stationnement, là, tu tu joues en dedans de 5 pieds du panier, puis tu sors surtout pas de là, tu bouges pas de là, tu prends les rebonds, puis tu bloques en défense. Mais maintenant, ces joueurs-là sont rendus qu'ils sont capables de jouer au périmètre. Puis c'est vraiment, vraiment, vraiment le changement. La ligue est beaucoup plus grande, plus espacée, plus habile, plus agile avec le ballon aussi. Là. Donc, la game de basket a changé beaucoup, Michel.
Et d'après toi, pour la saison 2023-2024, les Raptors, on s'attend à quoi comme saison? Est-ce qu'on peut déjà donner un chiffre de victoire, selon toi, ils pourraient terminer à quelle position de classement?
Ben, je pense qu'ils doivent jouer autour de 50-55 victoires cette année. Cool. Vraiment, là, je pense qu'ils sont capables de l'atteindre, au moins atteindre le chiffre de 50. Et probablement rentrer là, dans ce quatrième, cinquième, peut-être même troisième dans l'Est, dépendamment. Tu sais, je te dirais que selon le choix de Masai, avec soit Oji Anunoby, soit Pascal Siakam, dans le prochain 2-3 mois, ça va vraiment, vraiment dicter le ton là, au niveau des échanges, où est-ce qu'ils restent intacts comme équipe.
Et chez nous, dans la région, là, les saisons d'école sont commencées. Le sport-études, les équipes provinciales en basketball, que ce soit chez les filles, chez les garçons, est-ce qu'on a des tournois, des ligues, des équipes ou des joueurs-joueuses à surveiller?
Mais la majorité, au niveau provincial, la majorité des tournois préparatoires sont joués. Là, c'est le début des saisons, là, fin octobre et en novembre, là, pour la majorité des équipes. Il y a toujours aussi le fameux Jamboree que le Bleuard d'Arvida organise avec des équipes de la région, des équipes aussi de l'extérieur de la province qui va se jouer. Je pense que c'est en fin de semaine ou l'autre week-end, j'ai comme rapidement un blanc de mémoire, mais c'est à l'intérieur des deux prochains week-ends. Donc, ça aussi, c'est super intéressant. Là, les juniors sont pleins craqués d'athlètes de basketball, puis c'est vraiment, vraiment le fun.
La mecque du basketball ici, c'est-tu à Polyvalente d'Arvida? C'est-tu là où il y a plus de joueurs, plus de gros tournois?
Il y a deux pôles, Arvida et Dominique Racine.
Dominique Racine aussi, hein?
Exactement. C'est les deux pôles, là, Chicoutimi-Jonquière, là, je te dirais, qui se démarquent plus, autant en développement. Là, les deux sont très impliqués, là, primaire, secondaire, pas juste au niveau de l'élite, là, mais vraiment dans tout le développement, développement d'entraîneurs, promotion du basketball, aide beaucoup les autres écoles secondaires aussi de leur bassin. Donc, vraiment, là, Mustang, Dominique Racine et Bleuard d'Arvida sont les deux pôles. Là.
Et au niveau des entraîneurs, y en a-tu un ou deux qui sont de top niveau, des entraîneurs qui sont certifiés, qui ont de bonnes références dans la région?
Mais oui, ben oui, oui, oui. On a des excellents entraîneurs, que ce soit Pierre-Yves Gagné, que ce soit Jean Ménard, que ce soit Jean-Michel Bergeron, Dave Laroche qui arrive de la région, qui a coaché les équipes du Québec comme moi aussi, qui a coaché plusieurs filles qui jouent ici actuellement. Vraiment, Simon Leblanc, Alma, là, c'est quelqu'un qui travaille très, très, très fort, coaché du semi-professionnel. Donc oui, on a vraiment des gens impliqués au niveau entraîneur. Là. C'est super intéressant.
Alors, salutations à ces entraîneurs et bravo pour l'excellent travail. Phil Urtubiz, merci beaucoup. On se reparle dans une semaine.
Merci, bonne semaine.
Ce soir, les Sénateurs d'Ottawa sont à l'action contre les Capitals. Ovechkin, me semble, qui ne score pas autant de buts que d'habitude, là.
Début de saison difficile pour certains, puis Ovechkin.
Je pensais qu'il y avait juste Nick Suzuki qui ne scorerait pas. Ah, non. Ovechkin a de la misère aussi.
Il y en a un, puis tu vas être content de l'entendre qu'il y a de la misère. Jonathan Drouin ne jouera plus
sur le joue plus sa première ligne. J'ai vu ça, il a déjà baissé. J'espère qu'il ne se retrouvera pas dans la Ligue américaine.
Un point en trois matchs, mais bon, la saison est encore très jeune. Mais même du côté des Capitals, on a seulement deux matchs de jouer. Et on a seulement deux buts de marqués en deux matchs. On a une défaite qu'on s'est fait blanchir, puis on a une victoire où on a marqué une victoire de 2-1. Il y a seulement Connor McMichael et Matthew Phillips qui ont marqué du côté des Capitals, du côté là, de Ovechkin, de Backstrom, de Kuznetsov, de Van Riemsdyk, Dylan Strome. Ça devrait débloquer dans les prochaines journées, une chance. Et même Anthony Mantha pourrait être laissé de côté.
Ah, okay. Encore. Garde sur le sport là-bas, il y a le Sport Jacket de Martin Saint-Louis, veux-tu l'endosser et puis me donner ton choix de gardien de but pour la prochaine game? T'es Martin Saint-Louis, Dominique. Qui goal la prochaine game? On revient avec Montembeau, mais si on y va, même si Montembeau, c'est pas de sa faute d'hier, là. On y va avec Montembeau, ben Jake Allen pour la prochaine game. Ou on surprend tout le monde, on embarque. Primo.
Le prochain match est samedi face aux Capitals de Washington. J'y vais avec Allen.
Tu vois, toi qui es un fervent, un mordu de Montembeau.
J'y vais avec Allen. Non, Montembeau n'est pas le responsable, mais il a été faible sur ça.
Il a été faible. Quoi qu'Allen aussi l'autre
mais
soir.
Mais l'équipe a été faible, point.
L'équipe était pourrie.
Là, tu veux brasser les choses, mais t'envoies Allen parce que là, Allen, ça en fait une semaine et demie qu'il n'a pas regardé les buts. Il doit avoir d'Adlas.
Primo, il va gauler quand, lui?
Faudrait l'envoyer à Laval, puis ça brasse.
Hey, Laval, ils ont des blessés aussi, là.
Laval, ça va pas bien. Puis là, ben, ce soir, ben, prochain match, là, c'est Strassman qui va être devant le filet. Un gardien de 25
ans. On va être juste rappeler des docteurs puis des infirmiers pour les Canadiens de Montréal, certains.
C'est pas facile, là.
Puis là, on sait pas, là, pour Kevin Goulet. Là, on sait que Dak, la saison est probablement terminée.
Est terminée. C'est confirmé. C'est fini.
Oh, oui. Puis Goulet, on sait rien, là. On sait même pas où il est blessé. On sait pas si c'est le haut, le bas du cœur. Comment est-ce qu'il appelait ça, la blessure à Dak, lundi, là? C'est une... L'expression Chantal McAdams.
Caroline, je me souviens plus.
Je cherche le terme aussi.
Blessure.
OK.
En tout cas.
On s'arrête pour le retour avec Éric Lavoie.
Significative.
Alors, pour ce qui est de Kevin Goulet, on ne sait pas si c'est une blessure significative, mais il n'a pas terminé le match.
Alors, pour l'instant, c'est une blessure probable. Restons le mot.
Bonne soirée, mesdames, messieurs.
On ferme le vestiaire. De retour demain, 15h30.